Oui, donc Laurent Bigot, donc je suis effectivement journaliste enseignant à l'école publique de journalisme de Tours. Voilà, et je effectivement j'encadre le travail dont on va parler ce soir, qui est donc le site Factoscope, dont nous parlerons un peu plus tout à l'heure.
Des filles.
Et ben, moi c'est Apolline, je suis en licence presse écrite et web, j'ai fait mon DUT également à Tours et je suis sur le projet du Factoscope avec mes camarades de licence.
Et donc moi c'est Mathilde et j'ai fait un petit détour par la Bretagne avant de venir faire ma licence à Tours aussi et donc je travaille aussi sur le projet Factoscope.
Déjà en journalisme le
oui,
détour
oui,
en
un
breton,
journalisme,
ouais, c'était
oui.
un DUT
Un DUT comme à Tours mais à Lannion.
Ok, très bien. Donc ce soir, oui, comme vous l'avez dit, vous venez nous parler du Factoscope, mais avant ça, on pourrait revenir un peu sur le PJT. Déjà, qu'est-ce que le PJT pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément...
Oui, bien sûr, on peut l'expliquer. Donc en fait, l'école publique de journalisme de Tours est une des écoles de journalisme en France, une des 14 écoles de journalisme reconnues en fait en France, reconnues par la profession. Donc cette école forme des étudiants, une centaine d'étudiants en fait chaque année sur plusieurs diplômes. D'abord un DUT, donc avec un recrutement à partir du bac pour conduire les étudiants jusqu'à bac plus 2, et puis une licence professionnelle. Et également une année spéciale de journalisme qui est ouverte à partir de Bac plus 3 et qui permet de faire l'équivalent du DUT en une seule année et puis éventuellement de rejoindre la licence professionnelle dont j'ai parlé. Les étudiants se forment dans cette école à toutes les spécialités du journalisme, hein, que ce soit la presse écrite, la radio, la télé, mais bien sûr le web et tous les formats multimédia. Et donc la spécialité que nous représentons ici ce soir, c'est la spécialité presse écrite web de la licence professionnelle de l'EPJT.
Ok, la quatrième année, l'année spécialisée, en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas eu le background.
Ce qu'on appelle l'année spéciale, en fait, c'est une année qui a un recrutement un peu particulier puisque on y accueille en fait des gens qui ont réalisé déjà un cursus universitaire à bac plus 2, plus 3, plus 4, et même plus parfois, et qui viennent chez nous chercher une année de complément, de spécialisation en journalisme qu'ils effectuent. Donc sur une seule année universitaire, donc enfin 10 mois en fait à l'école quoi.
Ok, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, cette école publique de journalisme sur Tours, mais pas toujours sous ce nom.
Alors voilà, c'est-à-dire que en fait c'est une des formations de l'IUT, enfin de l'université de Tours et puis de l'IUT de Tours qui existe depuis que l'IUT existe, quoi, c'est-à-dire depuis la fin des années 60 et qui a obtenu la reconnaissance de ces formations par la profession au début des années 81 précisément. Donc effectivement, elle a une histoire, cette école, elle a formé beaucoup de journalistes, dont, comme je l'ai dit, dans toutes les spécialités, et elle continue d'évoluer et de monter sans cesse de nouveaux projets, surtout à l'heure actuelle où le journalisme évolue grandement, mais ça je pense qu'on va pouvoir en reparler.
C'est vrai que le nom, en fait, École publique de journalisme, il porte à confusion, mais non, ça fait bien partie des formations...
Oui, exactement. C'est, pour revenir sur le nom, effectivement, on a eu besoin, à un moment donné, d'essayer de le clarifier un petit peu, ce qu'on faisait, y compris vis-à-vis de l'extérieur. Assez souvent, un peu partout, en tout cas dans les autres écoles, et puis dans le milieu du journalisme, on nous appelait IUT de Tours. Hein, voilà, on disait, voilà, ce sont des étudiants de l'IUT de Tours. Alors, effectivement, ce sont bien des étudiants de l'IUT de Tours chez nous, mais simplement nous ne représentons pas tout l'IUT de Tours, hein, qui est riche d'une grande diversité de formations et de très nombreux étudiants, voilà, à peu près 2000 je crois, et nous à l'intérieur de ça c'est une centaine d'étudiants, donc on est une petite entité qui a certes beaucoup de visibilité au-delà de l'université de Tours et un peu partout en France d'ailleurs, on s'en est rendu compte aux dernières portes ouvertes, mais nous restons voilà, une minorité d'étudiants et d'enseignants au sein de cette IUT.
Justement, les portes ouvertes, c'était samedi dernier. Il y a eu des choses organisées en particulier à l'EPJT. Vous avez peut-être participé, Mathilde et Apolline, à des ateliers, des conférences, je ne sais pas.
On était surtout là pour accueillir les potentiels nouveaux élèves ou au moins les candidats. pour leur indiquer aussi s'ils avaient besoin d'informations sur le concours ou sur la formation en elle-même. On leur a fait visiter l'école aussi pour qu'ils se rendent compte de nos conditions de travail et de là où on va apprendre. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde, donc c'était aussi un plaisir de renseigner les potentiels candidats.
Parce que oui, c'est une des formations qui est très demandée. Il faut dire que l'entrée dans le DUT comme dans la licence est très sélective.
Oui, alors c'est vrai que c'est très demandé pour plusieurs raisons. Hein. C'est-à-dire que bien entendu, quand on s'intéresse à ces cursus en journalisme, prioritairement, on va essayer d'intégrer une école reconnue par la profession parce que c'est celle qui garantira les meilleurs taux, on va dire, d'intégration à l'issue. Donc forcément, déjà, ça réduit pas mal le choix, hein, puisqu'il n'y en a donc que 14 sur peut-être une centaine de formations qui revendiquent au moins une option journalisme un peu partout en France. Donc déjà, ça réduit pas mal, effectivement, le nombre de possibles quand on cherche une formation reconnue. Et puis c'est vrai qu'après... On a effectivement 800 dossiers chaque année pour intégrer la première année, enfin pour intégrer le DUT. Nous n'en prenons que 25. Alors bien sûr, quand on explique ça aux portes ouvertes, comme c'était le cas samedi dernier, ça peut paraître un peu effrayant, mais c'est ce qui nous permet d'avoir derrière une formation très solide avec des gens qui seront en capacité de la suivre et surtout de suivre le rythme, parce que ce sont des formations relativement exigeantes. Mais ça, peut-être que les étudiantes qui sont ici pourront en dire davantage là-dessus.
C'est sûr que c'est un avantage d'être en groupe réduit, surtout que les débouchés dans ce milieu, c'est assez compliqué. Donc s'il y a déjà 700 diplômés ou 700 entrées comme en psycho ou en lettres...
Voilà, alors après, ça, c'est aussi plus compliqué parce qu'en fait, à l'heure actuelle, sur le nombre de nouvelles cartes de presse qui sont distribuées chaque année, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on parvient à mesurer ce qu'il en est de l'intégration des 35 000 journalistes professionnels en France et de là où ils travaillent. Mais il y a à peu près... Il y a plus que 800, enfin plus que 600 ou 700 nouvelles cartes de presse chaque année. Simplement, la profession reste quand même ouverte à des gens qui n'auraient pas fait une école de journalisme. Alors bien sûr, c'est plus facile, enfin en tout cas, on espère que l'on facilite l'intégration professionnelle de tous les étudiants qui passent chez nous. Mais ça reste aussi quand même une profession largement ouverte et on n'est pas obligé d'avoir un diplôme de journalisme pour devenir journaliste.
Mais ça aide quand même, j'imagine.
Ça aide pas mal, effectivement.
Et j'espère que ça vous aidera. Mathilde et Apolline, votre objectif, vos envies après la licence, c'est quoi ?
C'est vrai que c'est assez compliqué de se projeter puisque depuis le début de nos études, on nous dit attention, on entend souvent ça, qu'il n'y a pas trop de travail et tout ça. Mais moi, mon objectif, c'est de plus de travailler en presse écrite, comme j'ai suivi l'aspect presse écrite, et plus de passer sur le web puisque c'est en train de se développer de plus en plus. Et notamment, le but de Factoscope aussi, c'est d'avoir un peu plus d'expérience sur le web et de sortir de cette année avec... plus d'expérience sur le web et...
Et Apolline ?
Moi, c'est un peu la même chose que Mathilde. Hein. C'est vrai qu'on nous a toujours dit... on a toujours été très réaliste par rapport à notre sortie d'études, donc ça fait un petit peu peur en même temps. Mais je pense qu'on est très bien préparé à l'aide des stages qu'on fait tous les ans. À chaque été, on est en stage plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on se fait des contacts. Donc nous, depuis 3 ans, on a accumulé des contacts, on a accumulé des expériences en rédaction. Et du coup, on espère que oui, au mois de septembre, on aura quelque chose, même si c'est de la pige ou des CDD assez courts. C'est comme ça qu'on va rentrer aussi progressivement dans ce milieu.
Oui, on sait qu'on n'aura pas tout de suite le boulot de nos rêves, mais qu'il faut persévérer et qu'il faut percer pour avoir ce qu'on veut à la fin.
C'est vrai que tu parles de contact et c'est super intéressant parce que c'est une formation, c'est un métier et un milieu qui marche beaucoup par réseau. Justement, les anciens journalistes formés à Tours, il y a quelque chose d'organisé avec les nouveaux étudiants ou les étudiants actuels?
Oui, alors en fait, on essaye d'optimiser au maximum le réseau, bien sûr, le fonctionnement du réseau, parce qu'effectivement, ça fonctionne beaucoup comme ça, l'intégration professionnelle. Alors, D'abord, il y a plusieurs méthodes. Il y a à la fois à travers les réseaux sociaux, parce qu'on a un groupe, notamment un groupe Facebook qui fonctionne bien, qui est celui justement des anciens de l'EPJT. Donc celui-ci fonctionne pas mal et surtout permet la diffusion sur un réseau privilégié des offres d'emploi dont l'école, enfin que l'école reçoit, et puis que chacun des journalistes anciens de l'école reçoit ou a connaissance. Donc effectivement ça permet quand même une diffusion intéressante au sein d'un petit groupe qui reste celui de l'EPJT. Donc ça marche pas mal, je crois, hein. Ça n'existait pas à une époque où moi-même j'ai étudié à l'EPJT, vous voyez. Donc je vois bien aujourd'hui que c'est un atout quand même pour eux. On voit quand même pas mal d'offres circuler comme ça. Ensuite il faut voir aussi qu'il y a aussi le réseau des intervenants, c'est-à-dire que on a quand même à peu près une cinquantaine de professionnels qui interviennent chaque année à l'école, hein, qui sont issus de toutes les rédactions. Enfin, ça, peut-être, vous pourrez en parler toutes les deux aussi. Mais voilà, encore ce matin, elles étaient avec une journaliste de Paris Match. Demain, on a quelqu'un du Parisien. Et après-demain, quelqu'un de Libé à l'école, pour ne citer que la presse écrite, hein, puisque c'est à peu près la même chose en télé, en radio, avec des intervenants de tous les médias. Donc ça, c'est aussi un réseau. Hein, c'est un réseau qui dépasse le PJT, mais qui est un réseau dans beaucoup de médias où ensuite les étudiants peuvent continuer à aller se présenter, soit pour faire de la pige, soit pour prendre un CDD. Voilà, pour vous citer un exemple, la semaine dernière, on avait quelqu'un d'Europe 1, ceux qui travaillent sur le site internet europe1.fr, et qui fait souvent justement la promotion d'un certain nombre de recrutements, alors pour des piges dans un premier temps, mais qui vient d'ailleurs.
C'est bien, c'est un début, il faut bien commencer.
Exactement, voilà, et qui le propose aux étudiants, aux étudiants qu'il a formés chez nous, qui vient d'ailleurs de titulariser en CDI une ancienne de l'école il y a un mois. Donc voilà, donc tout ça fonctionne aussi également. Après, je dirais que c'est aux étudiants, avec les armes qu'on essaie de leur donner, avec les conseils, beaucoup de conseils qu'on essaie de leur donner, y compris sur la pige, puisque vous l'avez compris, on a une vision réaliste du métier, on leur cache pas les choses, comme elles vous ont dit les deux étudiants qui étaient là, mais voilà, on essaye avec tout ça de faire en sorte qu'ils puissent tirer le meilleur parti de leur passage à l'école, quoi.
Très bien, nous parlons maintenant de Factoscope. Alors racontez-nous, Factoscope, comment le projet est né, comment l'idée est venue, c'est parti de quoi ?
Alors, chaque année, en fait, on essaye de travailler sur un projet, j'allais dire au long cours, mais bon, en tout cas, qui nous tient toute l'année universitaire, avec les étudiants de licence presse écrite et web. Et c'est vrai que assez souvent, ce projet-là, au cours des dernières années, on l'a adossé à la possibilité de faire un blog hébergé sur le site dumonde.fr, parce qu'on a un partenariat régulier avec Le Monde. Donc voilà, c'est le principe de départ, c'est-à-dire qu'on savait qu'on créerait de toute façon un blog hébergé sur le site du Monde. On l'a fait les années précédentes, parfois avec du travail local à Saint-Pierre-des-Corps, à Château-Renaud, à Jouer-les-Tours, pour faire remonter en fait des informations de terrain. On l'a fait l'année dernière au cours des régionales. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'est née l'idée. C'est-à-dire que l'année dernière, quand Le Monde nous a demandé, enfin les décodeurs du Monde, hein, qui font du fact-checking, de la vérification de déclarations politiques pour Le Monde, quand ils nous ont demandé de participer à une opération de fact-checking sur les régionales, donc pour couvrir la région centre et notamment le bilan de François Bonneau en région centre, on s'est retrouvé à faire nous-mêmes du fact-checking, à faire de la vérification aux étudiants. Et on a trouvé que c'était quelque chose de très formateur, mais on pourra y revenir si vous voulez. Et puis voilà, on s'est dit qu'on allait repartir sur une idée autour du fact-checking. Et il se trouve que par ailleurs, c'est une de mes spécialités. Donc j'étais plutôt parti sur cette voie-là. Et donc on a réfléchi à un projet et on a trouvé cette idée autour de Factoscope à l'occasion de la présidentielle, puisqu'il y avait cette grosse actu cette année. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une actu pareil.
Donc l'idée n'est pas venue des étudiants, Mais c'est les étudiants qui ont monté tout le projet et qui ont...
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée est plutôt venue de l'équipe enseignante, voilà, donc que ce soit moi et Nicolas Souris, le directeur de l'école, mais on a voulu y associer effectivement les étudiants pour qu'ils puissent créer en fait leur propre média, créer un média en tout cas qui leur ressemble, dans lequel ils dans lequel ils pouvaient mettre toutes leurs bonnes idées en œuvre. Et donc on leur a laissé la main, alors encadré par des professionnels toujours, mais on leur a laissé la main sur un certain nombre de choses, y compris par exemple dans le choix du nom, dans le choix de l'organisation, des sujets à vérifier, etc. Donc vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est assez grandement leur projet, mais ça c'est peut-être aux étudiantes ici d'en parler.
C'est vrai qu'on a eu le choix sur pas mal d'éléments, donc qui ont organisé pas mal de débats entre nous, puisqu'on a dû se mettre d'accord sur le nom, sur tout ce qui était visuel. On a travaillé avec une graphiste pour ça, donc c'est vrai que on a pu voir comment on montait un site internet, qu'est-ce qu'on devait mettre en place, et puis après maintenant que tout ça est fait, comment on doit alimenter le site tous les jours, et comment on doit rechercher nos informations à vérifier, et comment on se relie entre nous, c'est vraiment une organisation de groupe, et c'est vrai que c'est un projet global, quoi. C'est, même si c'est l'idée des enseignants à la base, on a vraiment porté ce projet pour que ce soit le nôtre au final.
Vous êtes combien sur le projet à travailler sur Factoscope ?
On est 9 étudiants.
Donc c'est tous les étudiants de la licence professionnelle dans la catégorie
presse écrite et web.
Ok, donc il y a un blog et un site internet.
Donc il y a un blog, oui, hébergé sur Le Monde, et notre site, donc sur un sous-site des rattrapages de l'actu.
Oui. Voilà. Oui, alors effectivement, c'est là peut-être qu'il faut apporter cette précision, c'est effectivement un double média. Donc sur le blog du Monde, on publie, on va dire, les articles originaux que nous produisons. Et c'est un peu notre vitrine, en fait, en quelque sorte, parce que forcément la visibilité d'un blog du Monde n'est pas tout à fait celle d'un site classique de l'école. Et puis donc par ailleurs, on a effectivement un site qui est adossé à un autre site qui s'appelle Les Rattrapages de l'Actu, qui fait des synthèses de l'actualité et qui est déjà opéré par le PJT. Et là, effectivement, cette partie-là, ce site adossé au Rattrapage de l'Actu, on a à la fois, bien sûr, toujours nos articles originaux, mais également l'agrégation de tout le fact-checking français sur les hommes politiques candidats à l'élection présidentielle.
D'accord.
Donc c'est un outil complètement inédit en fait en France, d'avoir accès à l'ensemble des phrases d'hommes politiques qui ont été vérifiées par des journalistes en France.
Donc il faut alimenter le blog et le site, mais j'imagine que le gros du travail, ça reste ce fameux fact-checking. C'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant, qu'on vous enseigne peut-être à l'EPJT, ou alors c'est vraiment une première pour ce projet ?
Moi, quand j'étais à Lannion, on avait le même projet qu'à Tours par rapport aux élections régionales, où on faisait du fact-checking aussi par rapport à ce qui avait été fait dans la région.
Toutes les écoles y étaient associées, toutes les écoles reconnues y étaient associées.
Ouais. Donc j'en avais fait un petit peu, mais c'est vrai que j'avais fait un ou deux articles, et là ça prend une toute autre dimension, où on est à produire au moins deux articles par semaine. Donc c'est vrai que... On a appris un peu, on a eu des cours aussi de fact-checking avec un intervenant, donc des décodeurs. Et après, on apprend petit à petit sur le tas, en fonction de nos erreurs, en fonction des retours qu'on a de nos camarades qui nous relisent. Donc on apprend tous les jours, en fait.
C'est une autre manière de produire, en fait, parce que déjà, on écoute toutes les matinales, les meetings, etc. Et on se rend compte que c'est difficile de trouver une phrase à fact-checker, parce qu'il faut que le candidat il affirme quelque chose. Donc voilà, ça, c'est aussi un travail. Et après, ça nous change aussi des reportages ou des interviews qu'on peut faire, parce que là, c'est très factuel. Dans le style de l'écriture aussi, c'est très différent de ce qu'on a pu faire avant. Donc on a dû réapprendre un petit peu à écrire pour cet exercice-là. Et finalement, c'était vraiment pas simple au début. Bon, maintenant, on est quand même un peu plus rodé, je pense. On en a quand même fait pas mal. Et donc maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué.
Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, c'était assez difficile, dans le sens où ça fait 2 ans au moins qu'on est dans le journalisme, et on a appris un peu à se forger chacun un style d'écriture, et là on nous dit non, eu de plus de toutes ces petites décorations qui fait que voilà, quand on écrit c'est sympa. Là, il fallait que ça soit très factuel, presque
très épuré.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, ça a été difficile de, et c'est, ça l'est encore, hein, de garder simplement les faits et ce qui est intéressant.
Donc, faut trouver les phrases, parce que oui, c'est vrai, faut trouver des affirmations brèves et pures, en fait, sans artifice tout autour. Et après, faut trouver, faut pouvoir les vérifier.
Voilà, donc on essaye à chaque fois de, donc on écoute les meetings dès qu'un politique est sur une émission. Et c'est vrai que c'est assez difficile déjà de trouver une phrase, parce que bon, ils disent pas non plus que des bêtises. Et en plus, c'est souvent là aussi qu'on se rend compte que, quand les politiques parlent, c'est beaucoup du discours de communication et au final, ils n'affirment pas grand chose et donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile de vérifier leurs propos, puisque des fois, c'est un peu creux et c'est seulement
c'est des
propositions, mais qui ne vont rien affirmer. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, c'est difficile.
Et ce qui est dur aussi, des fois, c'est à vérifier, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas vérifier, tout simplement parce qu'on ne sait pas d'où ils sortent ce chiffre, ou parce que les rapports aussi...
Oui, ou parce qu'aucun rapport existe.
Ne donnent pas la précision
voilà,
qu'il faut, en fait. Donc, des fois, on ne peut juste pas vérifier. Donc, voilà. Des fois, ça tombe à l'eau aussi, les sujets.
Justement, la vérification, en général, ça passe par quoi ? Vous servez de quel média, de quel texte ?
En principe, on essaye de ne pas regarder ce qui a été fait dans les médias, parce que grâce à Factoscope et au travail qu'on fait, on se rend compte aussi que ce que disent les politiques est repris par les médias sans être vérifié. Donc c'est aussi un problème.
Pas toujours.
Heureusement.
Oui, pas toujours. Et
on prend aussi donc surtout des rapports, par exemple de l'ONU, du ministère. Enfin, on se base sur ça parce qu'on se rend compte aussi, voilà, que les médias, ils vont affirmer aussi des choses qui sont parfois aussi fausses. Voilà, donc nous, on peut pas dire le Monde il a dit ça, Libé a dit ça, parce que des fois, l'erreur arrive aussi. Donc, mais nous, à chaque fois, on prend voilà les rapports du ministère, rapports de l'ONU,
oui,
de toutes les grandes organisations en fait, parce qu'on va vraiment à la source en fait.
J'imagine que ça doit être très formateur comme exercice et comme projet.
C'est vrai que c'est formateur dans le sens où on doit tout vérifier le moindre chiffre, essayer, même si on trouve un chiffre dans un rapport, des fois on peut trouver un chiffre différent dans un autre, alors essayer de voir qu'est-ce qui se rapproche le plus de la réalité. Et là, on se rend compte aussi que c'est vraiment important de vérifier l'information, parce qu'on peut vite faire fausse route, on peut vite mal interpréter une information. Et dans le métier de journaliste, c'est hyper important de donner l'information vraie et de ne pas induire le lecteur en erreur dans nos propos.
Ce projet, j'imagine, que vous allez le mener jusqu'aux fameuses élections.
Mmh,
et il a commencé il y a combien de temps ?
Depuis le début de l'année, on commence à y réfléchir, mais il a été lancé vraiment au début de l'année, là, 2017.
Au début de l'année civile. Mmh. Ok. Ok, ouais, donc c'est vraiment un exercice intéressant pour les étudiants. Et 9 étudiants qui doivent gérer 2 médias, c'est quand même un travail qui doit être assez conséquent en termes de temps et en termes d'organisation.
Oui, c'est effectivement un travail assez conséquent. Après, on leur demande de trouver une organisation. Enfin, vous l'avez compris, en fait, ils fonctionnent vraiment sur ce qu'on appelle un mode projet depuis le début. Donc, ils apprennent, en tout cas, au cours de cette année-là, à se répartir les tâches pour être plus efficaces. Voilà, effectivement, à se corriger les uns les autres et à prendre des initiatives. Donc sur ce mode-là, je dirais que ça rend les choses quand même un petit peu plus faciles pour tout le monde. Néanmoins, c'est vrai que c'est chargé, c'est vrai que ça leur demande beaucoup de travail à n'importe quelle heure, hein, puisqu'il faut suivre les débats politiques, il faut écouter les matinales des radios.
Enfin, c'est souvent la matinale,
ouais. Partout où les hommes politiques sont appelés à s'exprimer. Il y avait un groupe de 4 étudiants hier soir au meeting de François Fillon à Orléans, pour ça également. Donc voilà, forcément, oui, c'est un rythme assez soutenu. C'est pas la partie du journalisme peut-être la plus drôle. Hein. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps le nez dans des rapports parfois assez compliqués. Je sais à quel point ça peut être ça peut être parfois un petit peu dur, quoi. Voilà, mais néanmoins, je pense, en tout cas, on pense à l'école qu'une fois qu'ils seront passés par ce type d'exercice, ils ne pratiqueront plus le journalisme tout à fait comme ils l'auraient pratiqué ou comme d'autres générations de journalistes en tout cas pourraient le pratiquer sans être passés par cet exercice un petit peu exigeant, quoi. Voilà, un peu plus exigeant en tout cas que la moyenne. Voilà.
Donc c'est un gros projet qui est dans l'actualité. Et un autre gros projet dans l'actualité, si on peut en dire quelques mots avant la fin de l'émission, c'est les Assises du journalisme, parce que c'est dans une semaine, c'est 15, 16, 17 mars prochain au Vinci.
Exactement.
Et oui, le PJT, évidemment,
et partenaire,
participe et partenaire.
Et partenaire des Assises du journalisme, enfin, comme beaucoup d'autres partenaires possibles ici à Tours. Mais en tout cas, un des partenaires privilégiés, c'est sûr, puisque en fait, lors de chaque édition des Assises, on l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année, on délocalise en fait une rédaction au sein des Assises du journalisme. Donc là, avec les étudiants de deuxième année qui vont à la fois couvrir les assises à la fois sur le web, donc avec un autre site dédié qui s'appelle assises.journalisme.epjt.fr, vont aussi assurer des contenus print, c'est-à-dire distribuer chaque matin des trois jours des assises une publication de 8 pages, et puis qui vont également installer un plateau télé sur place aux assises pour interviewer un certain nombre de journalistes, de professionnels qui viendront participer aux nombreuses tables rondes prévues dans le cadre de cette manifestation. Donc effectivement, on a tout un dispositif. Ils sont déjà en train de préparer, bien sûr, ces interventions. Mais voilà, ça promet d'être encore une édition, là encore, chargée pour eux, mais forcément très formatrice.
Et ça, c'est la semaine prochaine, de mercredi à vendredi. Et Factoscope, ça marche jusqu'en mai, jusqu'au présidentiel prochain. Moi, je vais vous remercier d'être venus tous les trois ce soir dans l'émission.
Exactement, merci.
Merci.